Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre pendant une heure tous les soirs des artistes. Et ce soir, c'est avec Maud Jeffrey.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper tes papilles.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Maud Jeffrey.
Chevaux dans les airs, les pieds sur le sol, c'est une image jamais vue auparavant. C'est la traduction approximative du texte de la pièce théâtrale et musicale The Photographer, composée par Philip Glass en 1982 d'après les photographies de Muy Bridge. Ce sont des mots qui résonnent en anglais dans votre dernier disque, Maud Jeffrey, un disque qui s'annonce comme un hommage à la musique de Philip Glass, mais qui se déplie comme un paysage où se croisent les cordes d'une harpe, des envolées électroniques, atmosphériques, du vent, des orages, des oiseaux et beaucoup d'autres choses. C'est un Philip Glass prolongé, augmenté, amplifié, qui apparaît tour à tour dans les bois, dans le froid et dans la transe, un Philip Glass qui voyage. Bonsoir Maud Jeffrey.
Bonsoir.
Still Life, c'est le titre de votre dernier album. Il est sous-titré Tribute to Philip Glass. Il est sorti sur le label Pan European Recording. Bienvenue.
Merci.
Jeffrey, on vient d'entendre un montage donc de deux versions de A Gentleman's Honor. La première, la version de Philip Glass, donc cette pièce composée en 1982. Et là, ce qu'on entend, c'est votre version qui est sortie sur l'album Still Life. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces deux versions montées comme ça ?
Ça me fait plaisir parce que je sais pas si les gens entendent ou connaissent vraiment vos photographeurs. Il y a des gens qui entrent dans Still Life et qui peut-être ne connaissent pas vos photographeurs. Et j'avoue que je les ai jamais collés l'une avec l'autre et ça se marie super bien.
Pourquoi avoir fait le choix de cette pièce moins connue de Philip Glass par rapport à ses autres œuvres ?
Parce que pour moi, c'est son tube, mais c'est personnel. C'est vraiment c'est la première œuvre que j'ai entendue de lui et je l'ai trouvée absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment une mélodie qui reste en tête, que je trouve très très puissante, que j'ai écoutée des millions de fois depuis que je suis toute petite et j'avais vraiment automatiquement, en fait, instinctivement envie de reprendre ça.
C'est quelque chose qui remontait loin, que vous attendiez depuis longtemps.
Ouais. Ouais, ça tombait bien en fait. Ouais.
Dans l'album, il y a aussi des passages de des reprises. Enfin, on va voir si on peut parler de reprises exactement, mais de Einstein on the Beach. Et l'idée de coller ces deux pièces de Glass était évidente.
Au départ, je me suis posé la question puisque c'était une demande en fait à la base de Sourde Oreille et France Télévisions qui faisaient un projet et en fait ils m'ont proposé de reprendre des œuvres de Philip Glass. Donc la question étant, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à cette question? Où est-ce qu'on va? C'est immense. Et en fait, j'avais envie de mêler ces deux-là parce que je me suis rendu compte que mélodiquement ça collait plutôt bien et pour moi c'est les plus marquantes, les plus importantes, mais encore une fois c'est personnel, c'est un point de vue qui est personnel.
Ce qu'on entend aussi chez Philip Glass c'est la ritournelle très très souvent, enfin ouais. C'est cette manière à la fois là en plus dans la partition vocale de répéter des choses et dans la dimension musicale. Est-ce que c'était une chose à laquelle il fallait s'attaquer immédiatement dès que vous vous êtes emparé de Philip Glass?
Oui, bah déjà j'ai choisi des œuvres qui avaient des voix. C'est-à-dire que c'est pas le cas de toutes ses œuvres. Moi, j'aime bien travailler la voix. J'aime bien les voix parlées aussi. J'adore ça globalement dans la musique et dans les œuvres. J'en mets aussi dans mes compos. Et du coup, sur ces deux œuvres-là, il y a beaucoup de voix répétées, scandées. Einstein on the Beach, donc qui est un opéra qui dure quand même 4h30, qui est comme une sorte de conte avec des voix de filles qui répètent des chiffres évoquant la société de consommation. Tout ça, après un prêtre qui va raconter l'amour dans le, bon, en fait il y a beaucoup de dialogues comme ça entre des personnages et puis des phrases répétées et j'avais envie de prendre les plus belles, déjà celles que je trouvais les plus belles et effectivement de travailler là-dessus, de les répéter, d'utiliser donc cette ritournelle, ouais, des voix.
Cet album a été enregistré avec une harpiste, Lavinia Meyer. Comment a fonctionné cette collaboration? Comment elle s'est faite?
Alors elle s'est faite, bah, au départ, c'est donc cette initiative de Sourde Oreille et France Télévisions qui nous ont fait nous rencontrer. Parce qu'ils m'ont proposé de travailler sur Philip Glass. Ils m'ont proposé ça une première année en me proposant de travailler avec un pianiste. Mais moi, j'avais pas trop le temps cette année-là, donc... Ils m'ont repoussé à l'année d'après en me disant « on te garde Philip Glass pour l'année d'après ». Et l'année d'après, ils sont vraiment revenus. Donc là, je me suis dit « là, tu te lances, tu peux pas repousser encore ». Et ils m'ont proposé cette année-là de le faire avec une harpiste qui s'appelait Lavinia Meyer et qui, elle, travaille déjà avec Philip Glass et sur des compositions de Philip Glass, mais d'une façon beaucoup plus classique, c'est-à-dire c'est vraiment des reprises. Donc là, je lui ai vraiment proposé que je travaille dessus, c'est-à-dire... Ça part vraiment d'un travail électronique, de composition électronique, sur lequel j'ai intégré, dès le départ de la composition, en fait, la place de la harpe, pour que ça s'intègre totalement. C'est-à-dire que vraiment, c'était dans la composition, et comme ça, ça permet de pas avoir ce sentiment que c'est un bœuf entre deux musiciens, et que ça, enfin, pour moi, la composition s'en ressent vraiment, c'est plus précis, c'est jamais mis au-dessus d'eux, en plus, c'est intégré complètement. Donc la harpe est traitée, on va dire, comme un de mes synthés, c'est la même chose, c'est-à-dire, ça fait partie d'un grand ensemble, et je pense qu'elle a bien compris, la façon dont on allait travailler et puis et aussi parce qu'elle avait un emploi du temps assez chargé, donc finalement elle s'est intégrée à la fin en venant enregistrer ses harpes qu'elle fait très très bien. Elle est vraiment très très forte, enfin c'est une très grande musicienne, donc ça a été assez rapide, mais voilà comment ça s'est intégré en fait.
C'était des cases blanches laissées pour la harpe?
Non, c'était pas des cases blanches, c'était vraiment des cases. Moi, je les ai écrites et ensuite je lui ai envoyé les partitions qu'elle a ensuite donc jouées en proposant quelques modifications s'il y avait besoin à son sens. Je lui laissais quand même ça évidemment, mais sinon c'est vraiment j'ai composé ces parts-là qu'elle a ensuite jouées à Paris en enregistrement dans un studio.
C'est drôle parce que la harpe, on peut imaginer que c'est un des instruments les plus anciens, enfin en tout cas cette forme-là d'instrument à cordes. Et vous êtes avec les machines.
Ouais, mais en fait, il y a quelque chose qui est très pratique aujourd'hui, c'est les logiciels de composition. C'est-à-dire que j'ai fait du solfège enfant et tout ça, mais je serais bien incapable d'écrire une harpe sur des réelles partitions avec mon petit crayon.
De manière classique.
Ouais. Voilà, donc en fait. C'est vrai qu'on est aux antipodes des façons d'écrire et en même temps, grâce à ces logiciels, il m'a suffi de trouver simplement le bon logiciel qui va traduire mes partitions électroniques, c'est-à-dire vraiment qui sont écrites avec mon synthétiseur en fait, mais qui vont les traduire tout simplement pour une partition de harpiste et ça facilite grandement les choses. Et en même temps, je trouve que, enfin, quand on pense à écrire pour une harpe et en prenant en compte la fragilité de l'instrument,
parce que c'est physique.
Ouais, c'est encore plus fragile que je l'avais imaginé. C'est-à-dire que quand j'ai écrit cette harpe, j'avais une fausse harpe. Un plugin, enfin, c'est vraiment des harpes qui sont enregistrées en musique électronique. On peut tout jouer, hein. Donc là, c'était vraiment une fausse harpe, tout simplement intégrée à mon. Mais je lui avais mis un petit peu d'effet, un petit peu de réverb. Et puis, quand je me suis retrouvée face à la vraie harpe en enregistrement, j'ai compris à quel point c'était encore plus léger et délicat, parce qu'il fallait lui laisser beaucoup de place, en fait, dans la composition, parce que la musique électronique est forcément beaucoup plus puissante. Donc, sans rentrer en plus dans le cliché de la harpe et lui donner que des moments fragiles, et c'est pour ça que je voulais aussi qu'il y ait quelque chose de violent, parfois, dans son jeu, enfin, de plus intense et tout ça. Donc, elle l'utilise aussi, parfois, pour faire des bruitages, et pas que ce côté justement fragile, mais globalement c'est un instrument très 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 léger, très délicat.
Comment vous la percevez, la musique de glace? Pour vous c'est quoi? C'est une partition? C'est du son? C'est un peu tout ça à la fois?
C'est de l'émotion, j'ai envie de dire. J'ai l'impression il y a quelque chose. On dit que c'est un minimaliste. Moi, je sais pas si c'est vraiment un minimaliste. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression de En fait, ça m'emporte complètement, quoi. Je trouve que c'est plein d'émotions. C'est assez épique pour un minimaliste. Donc, pour moi, c'est tout ça, quoi. C'est vraiment naviguer entre des émotions assez intenses, en fait.
Je vous propose qu'on l'écoute.
Einstein, as a piece, as a theater piece, as a music theater piece.
Einstein on the Beach n'a jamais été imité par qui que ce soit. Il y a des gens qui disent qu'on a influencé l'opéra, mais ce n'est pas vrai. Personne n'a rien écrit de comparable. C'est devenu un opéra sui generis. Les gens font d'autres choses, bien entendu. Ils ont des approches différentes. On est revenu dans l'entertainment. L'influence de la télévision et du cinéma ne sont pas étrangers à cela. Mais un travail aussi abstrait que celui d'Einstein, c'est pas quelque chose qui a été imité. Donc Einstein, je vous le disais, c'est un opéra sui generis. Si 10 ans plus tard, les gens découvrent Einstein on the Beach, eh ben, ils ont l'impression que ça a été écrit il y a 1 an. La raison, c'est parce que vous n'avez rien entendu de comparable. Il n'y a pas eu d'imitation d'Einstein on the Beach. Donc ça semble toujours original, parce que l'originalité a été maintenue.
Moi, Jeffrey, on entend la voix de Philippe Glass, une archive de France Culture. Il était l'invité de la Grande Table en 2014. C'était au moment de la reprise d'Einstein on the Beach. C'était au Théâtre du Châtelet.
Ouais.
Est-ce que c'est une figure d'autorité pour vous ou pas du tout?
Ah si, ouais, c'est une figure d'autorité. En fait, j'ai lu son bouquin. Il a écrit une autobiographie, là, qui est sortie il y a une petite année. Et je découvre vraiment que c'est une figure d'autorité, ouais. Ouais, il est assez imperturbable dans ce qu'il veut et il lâche rien. Et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout cherché un succès,
rapide, il a eu la teneur de son propos, c'est-à-dire que je crois qu'il a Einstein on the Beach, il a dû écrire vers 45 ans, je crois, et il a été chauffeur de taxi, déménageur, tout. Il a jamais rien lâché. Il a pas gagné énormément de fric en fait avec son art pendant très très longtemps. Et il est devenu plus célèbre vraiment assez tard, et c'est un mec que je trouve, oui, qui a une autorité, une détermination et une discipline que je trouve assez fascinante, ouais.
Il dit dans l'archive que Einstein on the Beach, c'est quelque chose qui n'a jamais été imité. Est-ce que vous partagez son avis?
Ouais. Moi, j'ai été le voir justement au Châtelet. C'est la folie, quoi. C'est 4h30. On passe par un peu tous les états jusqu'à cette apothéose de fin. Visuellement, c'est incroyable. C'est Bob Wilson qui a fait la mise en scène avec ses aplats de couleurs. Pour moi, c'est vraiment un rêve éveillé. C'est quelque chose de très puissant et assez inégalé.
Et c'est quelque chose aussi où la musique dialogue et collabore avec d'autres arts, la mise en scène, la chorégraphie aussi.
Ouais.
Et c'était une dimension aussi que vous aviez présente à l'esprit en faisant cet album.
Dans cette autobiographie de Philippe Glass, j'ai lu qu'il disait il est assez modeste hein, sur son art globalement. Il dit mais moi en fait, je suis juste un musicien de théâtre. Voilà, il dit ça de façon très simple parce que je pense qu'il a été habitué à toujours composer pour des choses. Il a démarré comme ça pour ses amis. Enfin, c'était un peu des gens qui bossaient collectivement et tout. C'est ça qui le mène et je comprends complètement. C'est-à-dire que moi aussi, j'aime bien tenir toujours compte des aspects visuels, sonores. Je trouve que tout se nourrit en fait. Je pense pas que le son soit seul dans son coin. Enfin, même quand on ferme les yeux, on écoute un truc, on voit des couleurs, on voit des choses. Enfin, pour moi, vraiment, les tracks ont des couleurs, c'est très clair. Et puis souvent, je les associe vraiment à ces couleurs. Et même parfois, je les nomme dans mes titres. Il y a des couleurs, mais c'est pas pour rien. Et oui, bien sûr que c'est lié, de façon très forte, en tout cas, je trouve.
Mais alors, pourquoi on lui a donné la réputation de minimaliste?
Parce que c'est répétitif. Et parce que peut-être qu'au début, c'était plus minimal, effectivement, dans ses premières œuvres, parce que peut-être aussi parce qu'il faisait beaucoup de choses pour le théâtre, donc ça doit pas prendre énormément de place, il faut laisser la place. Tout simplement, enfin, il fait partie des minimalistes américains, enfin, c'est vrai que c'est le fait que ce soit répétitif, mais je dirais plus que c'est quelqu'un qui fait de la musique répétitive, peut-être que minimaliste, alors.
Dans son idée aussi, il y a quand même, dans l'archive qu'on vient d'entendre, il y a un peu l'idée d'avant-garde, l'idée de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et d'ailleurs, c'est un des textes qu'on entend, une image qui n'a jamais été vue auparavant, a picture never seen before. Est-ce que vous avez dû aussi composer avec ça, cette idée de la chose qui apparaît et qui existe toute seule?
En fait, le truc, c'est justement, je savais pas du tout... où il fallait, il n'y a pas de règle, hein, on se retrouve face à ça, on se dit bon, effectivement, c'est assez colossal de s'attaquer à ça, mais il faut se l'approprier en même temps. Il ne s'agit pas de faire un hommage un peu obséquieux à sa musique, mais vraiment de se réapproprier dans son univers tout ça. Donc il fallait. Donc je me suis dit, ça se trouve, ça va être complètement raté. Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dedans? C'est vrai que c'est et c'était créé de zéro, quoi, une sorte d'univers en entier, donc sur 40 minutes, parce qu'au final ça fait 40 minutes, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau monde, enfin.
Ça constitue un monde en soi.
Ouais, voilà.
Et serait l'idée que oui, ce que je disais en début d'émission, vous l'amplifiez, vous le prolongez, mais vous imitez pas.
Non, j'aurais déjà pas. Non, je serais pas capable d'imiter ce qu'il fait. Parce que c'est vraiment, on n'est pas du tout dans les mêmes quantités de choses. Enfin bon, c'est voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment de créer quelque chose d'entier par rapport à ce démarrage de Philippe Glass, mais de se le réapproprier.
Est-ce que vous faites un rapport entre le fait que ces œuvres soient aussi des œuvres théâtrales d'une certaine manière? Et la forme du concert, la forme du set de DJ.
Oui, de toute façon, la structure et la construction des choses, je trouve ça assez passionnant parce que en musique, là, par exemple, je travaille sur un spectacle pour Xavier Veillant, dans lequel c'est exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire, je dois gérer la musique pour le spectacle. Et en fait, on structure tout en même temps. Enfin, la musique crée les séquences visuelles qui vont avoir lieu, etc. etc. Donc, la structure, de toute façon, que ce soit en DJ set, que ce soit pour un spectacle, que ce soit pour tout ça, c'est même pour un morceau unique, hein, pour un morceau même de 3:30, c'est essentiel. Hein. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les histoires de structure, quoi.
Et le rapport au public ?
Le rapport au public, ouais, parce que c'est à eux qu'on raconte ça, quoi. Dans la structure, il y a vraiment la notion de narration, et c'est ça le plus passionnant, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va raconter, donc si c'est un DJ set pendant 2 heures, ou si c'est un album pendant une petite heure, c'est vraiment la narration de quelque chose. Et pour moi, c'est pour ça que l'ordre des choses a vachement d'importance sur un album aussi. C'est pareil. Alors peut-être qu'aujourd'hui la musique se consomme, moi aussi je consomme des tracks unitaires bien sûr, et j'ai des trucs que j'adore et je l'écoute juste sans forcément écouter l'entièreté d'un album ou quoi, mais j'aime bien aussi cette idée-là de narration, que ce soit à n'importe quel niveau, en fait, de la musique. En direct, pour le public, ou chez soi, en studio. Mais de toute façon, l'idée, c'est toujours de raconter une histoire. Pour moi, c'est ça qui lit tout.
C'est toujours un récit, ouais.
Ouais.
You are the light of my life. Do you love me?
France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Maud Giffray.
Maud Giffray, on entend le morceau Still Life de l'album qui s'appelle aussi Still Life, donc de l'hommage à Philip Glass que vous avez composé. Et on entend ce travail aussi qui est assez particulier. Vous parliez de la question des pistes par rapport à l'album, qui est que cet album-là peut être entendu comme une grande piste de 40 minutes. Et on entend dans ce morceau, au milieu, on a l'impression que ça s'interrompt et que ça part complètement. Enfin, que c'est un nouveau morceau qui est au milieu de ce morceau-là. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez pensé, à défaire ça, ce format du...
C'est que c'était très compliqué de ce travail à la base. C'est vraiment une musique créée pour un live, hein. Donc je tenais beaucoup à ce que ce live-là soit sans arrêt,
sans
en fait, sans coupure. Donc effectivement, il y a 40 minutes, pour moi c'est une pièce entière qu'il a fallu couper pour les besoins aujourd'hui de des plateformes. Et donc c'est assez nécessaire de toute façon pour l'écoute. Mais donc celui-ci, oui, pour moi, il y a une espèce de silence. Mais les silences, c'est très important en musique. Et donc les silences avant ces cordes qui sont des cordes électroniques qui sont pas la harpe,
qui surprennent.
Qui surprennent. Mais s'il y avait pas ce silence, ça marcherait pas. Donc en fait, oui, c'est une reprise de Einstein on the Beach. C'est les paroles d'Einstein on the Beach. C'est la base de ce track. Mais effectivement, je trouvais important de démarrer avant les cordes et qu'il y ait même ce silence, parce que ça permet de rentrer dans le mood pour apprécier après les cordes et tout ça.
Et c'est une manière aussi de surprendre l'auditeur.
Ouais, c'est surtout que le début du morceau, donc il y a vraiment des phénomènes météorologiques, hein, on peut dire, du vent, des oiseaux, etc. Donc ça lave un petit peu de tout ce qu'il y a eu avant, et hop, on repart dans quelque chose avec ses cordes et ensuite la harpe et tout. Donc c'est un moment assez élégiaque au milieu. C'est un peu comme le plateau des 40 minutes. Il y a des moments plus dynamiques avant, après et tout ça, mais là c'est vraiment on atteint un peu le plateau, quoi.
Voilà. On est en haut.
Voilà.
Comment vous avez procédé avec toutes ces ambiances atmosphériques, d'environnement, de chants d'oiseaux, d'orages? C'est des sons que vous avez pris ou...
Alors c'est des sons, c'est des sons qui se trouvent, hein, sur Internet. Et puis, ça se trouve facilement. J'ai pas été avec mon petit micro dehors sous la pluie et tout, sous l'orage, mais ça aurait pu.
Et c'est une manière aussi de rendre concrète cette musique, de pas en faire du tout quelque chose d'abstrait, ou en tout cas de mathématique.
Ouais, c'est vraiment de lui amener des images aussi assez fortes. Enfin, c'est comme si ces 40 minutes étaient un voyage intérieur, en fait. Il y a un grand voyage et on passe par pas mal d'étapes. Et là, c'était vraiment pour appuyer de rajouter ces oiseaux, ces orages et tout ça. C'était vraiment pour appuyer le sentiment qu'il y a à ce moment-là d'être comme si on était lavé, quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça dans ce passage. Et donc, c'est pour le mettre en valeur.
Il y a plein de moments dans cet album où on se dit, enfin où je me suis dit, ça va partir en 7. Mais pas vraiment.
Ouais, en 7.
En 7 DJ, et on va tous se mettre à danser.
En fait, non, je trouvais que c'était peut-être la limite à pas dépasser. C'est-à-dire, il y a des petites évocations, il y a des colères, il y a des montées.
Mais ça s'arrête.
Mais ça s'arrête parce que j'avais pas envie de tomber dans la vulgarité. C'est-à-dire, il y a des moments avec des rythmiques appuyées, des montées. Il y a une montée de tempo qui est assez fulgurante comme ça, qui speed à mort. Et tout ça, j'y tenais. Mais l'idée, c'était d'évoquer ces moments comme de colère ou de montée. Et qu'on soit pas que dans la fragilité, mais qu'on ait aussi ces revers-là. Mais de les faire de façon délicate quand même, quoi.
Mais c'est assez beau.
Ouais.
Enfin, d'évoquer quelque chose qui peut par ailleurs être pas forcément brutal, mais un peu soutenu, quoi.
Ouais.
Juste de l'évoquer.
Les rythmiques sont assez, effectivement, elles sont soutenues, vraiment. Mais de qu'elles durent pas une minute, parce que je pense que ça serait, ça n'aurait pas le sens que là ça revêt si ça reste des évocations avant de repartir. Donc, c'est vraiment des moments qui viennent rythmer, imposer des montées, un chemin, quoi. Mais fallait surtout, à mon sens, fallait pas que ça parte en DJ set et en efficacité comme ça. C'était pas l'idée de ce travail.
Il y a un effet de boucle aussi sur l'ensemble des 40 minutes de composition, qui est que à la fin, on a un peu l'impression de revenir au début.
Ouais.
Ouais. Ça, c'était important de le faire aussi.
Bah oui, parce que du coup, ça, c'est pareil. On est dans la narration, on lit quelque chose du verbe lier, du début à la fin, en étant passé par plein d'intempéries, des moments de calme, des moments tristes, plus gais, plus colériques, etc. Et puis à la fin, hop, on repose ses pattes et on revient vers quelque chose vers lequel on était au départ, avec plus d'énervement, parce que le morceau de la fin est plus énervé. Et puis voilà, on s'en va. Donc c'était important, ouais, que ça fasse cette boucle géante au-dessus des petites boucles, quoi.
Mais c'est drôle parce que ça créerait du coup une sorte de continuum entre vous, votre pratique de DJ et la musique électronique pour aller vite, et la musique de Philip Glass, donc on a pu dire minimaliste, mais en tout cas d'avant-garde. Il y aurait un continuum entre ces deux choses. Tout à l'heure dans l'archive, il disait aujourd'hui c'est l'ère de l'entertainment. Il y aurait, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, pas de distinction entre l'avant-garde, d'une certaine manière, et la musique populaire électronique.
Bah, c'est sûr que, bon, aujourd'hui, moi, je suis assez d'accord, on est dans un ère de l'entertainment, ça, c'est certain. Tout est filmé, il faut toujours, il y a vraiment cette notion d'efficacité, bon, lui, c'est sûr que c'est pas vraiment là où ça se situe. Après, tous ces aspects, oui, de boucles, de répétitions, de choses qu'on utilise complètement dans l'électronique pour la trance. Donc, c'est peut-être là où il y a un lien très fort. Donc, dans ce que peut évoquer un morceau de ces minimalistes, de Glass en particulier, donc où on est dans une litanie qui se transforme en trance, et puis c'est assez puissant comme ça. Donc bien sûr, après, les musiques électroniques ont complètement récupéré ça, donc après il y a plus une notion physique, donc plus pour danser et tout ça, mais on est sur les mêmes patterns, sur les mêmes idées de répétition du son et de trance. Ouais.
C'est l'histoire de la musique pour vous, ça a un sens?
L'histoire de
la musique, ouais, l'histoire des formes musicales.
Moi, j'ai une tendance à être très subjective dans mon approche, c'est-à-dire que je connais pas du tout tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'attirent pas du tout, donc vers lesquelles je vais pas forcément plonger au sein de l'histoire de la musique. Je le prends vraiment beaucoup plus personnellement, c'est-à-dire je me penche vraiment sur les choses qui me touchent tout de suite, qui me parlent, mais c'est donc ça a un sens, et en même temps je pense du coup que mes lacunes sont certainement grandes, parce que je plonge pas forcément sur des choses qui vont pas m'intéresser comme ça de prime abord.
By myself, I love music. It's not telling me a story. It's more about.
J'adore quand la musique ne me raconte pas une histoire, mais
talking to me brainish, maybe.
Mais qu'elle parle plus à mon cerveau.
And like a trip on LSD or like a trip.
Comme
on
un
hashish,
trip au LSD ou au hashish.
And then it's for me good music. It has to talk
là,
to
pour
my
moi,
brain.
C'est de la bonne musique. Elle doit parler directement à mon cerveau.
I'm not so much in lyrics. I understand. That's why I like.
J'aime pas beaucoup comprendre les paroles. C'est pour ça que j'aime bien Sigur Rós.
Bjork, I don't care
Bjork,
what she's singing.
Je m'en fous de ce qu'elle chante.
I understand it anyway. The way
je le comprends de toute façon, juste à la manière dont elle le chante.
I like it more if it's very minimal, very.
Je préfère quand c'est très minimal.
Not trying to teach you something.
Et que c'est pas en train d'essayer de vous enseigner quelque chose,
Because
de vous apprendre quelque chose.
I think the sea is also something without words, and you understand what the sea gives you. And for me, music is the same.
La mer vous donne beaucoup d'émotions. C'est quelque chose de très spirituel, et je pense que la musique, ça doit être
or
la même
paint,
chose.
Ou paint.
Une peinture.
And just like on music, is it, if it's more quiet but very strong in a way.
J'aime bien la musique quand elle est calme, mais finalement très forte.
Moi, Jeffrey, on écoute une archive, c'est la voix de Hélène Alien, la DJ allemande, sur France Inter en 2010, où elle parle du fait de se brancher sur le cerveau, d'une dimension émotionnelle de la musique. Et je me suis demandé, à l'écoute de Still Life, votre album, quelle place elles avaient, les paroles, le texte de Philip Glass à l'origine que vous avez remanié et que vous chantez, et notamment leur signification. Est-ce que vous y avez prêté attention?
Ouais, bah déjà, je, je les ai choisis pour celles que je trouvais le plus jolies en prononciation, qui évoquaient le maximum de choses. Après, il y a donc deux œuvres. Il y a les paroles de The Photographer, qui sont très simples, hein, très compréhensibles et que chacun peut s'approprier. Donc j'ai pris vraiment les choses les plus universelles de ces paroles-là. Et celle d'Einstein on the Beach, il y a vraiment deux moments, c'est-à-dire qu'Einstein on the Beach, qui est donc cet opéra assez étonnant, où il y a aussi un rapport à la société de consommation, quand il y a des femmes qui parlent, qui répètent, qui scandent des chiffres comme ça. Donc j'ai réutilisé ça parce que je pense que Glass a pas non plus envie d'expliquer très concrètement que oui, c'est les chiffres de je sais pas quoi, mais c'est des chiffres. Donc les chiffres, évidemment, ça, on sait de quoi il s'agit. On est dans une société donc où les chiffres ont cette importance-là. Donc j'avais envie de scander ces chiffres aussi, et puis de répéter les passages les pareils, les plus beaux, les plus emblématiques d'Einstein on the Beach, où à la fin ce prêtre raconte un peu l'amour, en gros. Donc les paroles, c'est moi qui les dis toutes dans mon projet, et j'ai juste fait appel à une amie qui est très bilingue et qui parle beaucoup mieux et plus vite que moi en anglais pour certaines paroles qui sont justement très rapides, dites par des filles dans Einstein on the Beach. Donc j'ai fait attention quand même à
la diction.
Ouais, quand même, que ça soit compréhensible.
Il y a une dimension, moi je trouve évidemment comique, dans l'utilisation du langage chez Glass, et Wilson.
Ouais.
Il rigole.
Oui, complètement. Bah justement, ces chiffres et tout, ça devient complètement grotesque. Dans Einstein on the Beach essentiellement, c'est-à-dire que vraiment, ça devient le ridicule de la société de consommation où ces filles répètent 150 000 chiffres dans tous les sens, sans aucun sens, et on comprend bien vite que ça n'a aucun sens. Et c'est l'idée, je pense aussi. Mais c'est pour ça, Hélène Alien disait aussi tout à l'heure, je suis assez d'accord avec ça sur l'intention des paroles et de pas forcément. Moi, je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que je prête pas forcément énormément attention aux paroles précises des gens dans des chansons pop, etc., qui soient en anglais ou en français, ou à part sur certains grands auteurs. Mais c'est vrai que l'intention musicale d'une chanson en anglais, comme quand on écoute depuis qu'on est petit et on comprend très bien, même si on comprend absolument pas ce que le chanteur raconte, n'importe quel groupe de qu'on puisse écouter, on saisit absolument l'intention, et je suis assez partisane, ouais, de pas toujours, même j'aime bien les yaourts, en fait, j'ai tendance à en faire aussi, parce que parfois quand on remplace ces paroles, donc qu'on démarre en studio, qui sont pas définies, qui sont pas terminées, et qu'on fait juste des intentions de mélodie, et que finalement après quand on les remplace par des vrais mots, on trouve parfois que c'est moins fort, ça marche moins, l'intention elle est moins là. Et parfois, je préfère garder du yaourt sur certains passages parce que ça marche mieux. Donc, l'intention et la façon dont on dit les choses est vraiment aussi importante que ce qu'on y met, quoi.
C'est quelque chose que vous aimez faire, chanter dans vos compositions ?
J'aime bien utiliser la voix, ouais. Ouais, je trouve que ça personnalise, ça donne une certaine émotion, ça incarne d'une certaine façon. Et encore une fois, même si c'est pas pour dire des choses très très précises, ça génère vraiment, je pense, un niveau d'émotion qui marche tout de suite si c'est réussi, quoi. Mais je trouve ça incarne bien les choses, ouais. J'aime bien.
Hélène Alien aussi, elle parle du fait de se brancher sur le cerveau comme un trip sous drogue. Ça colle à la peau de la musique électronique, ça, encore ?
La drogue ?
Ouais.
Oui, je pense. Maintenant, c'est quand même un phénomène qui est là depuis longtemps. Hein, donc, mais c'est vrai qu'il y a encore. En même temps, ça existe, mais ça existe ailleurs aussi. Hein, donc, et puis, à partir du moment où des gens sortent une nuit entière et tout ça, bon, voilà, c'est pas forcément. Il y a la musique électronique et en fait la musique électronique avait, oui, déjà dans les années 90 quand c'est arrivé, il y a eu très vite des interdictions et tout ça. Là, je pense qu'à nouveau il y a des petits soucis d'interdiction a priori sur Paris et donc il y a quand même cette image, ouais, qui colle encore à la peau, ouais.
Et elle parle aussi surtout du voyage, enfin de la dimension. Il faut que la musique emporte. Et comment concrètement vous composez, vous, ce voyage-là? Vous y pensez? Vous le voyez? Vous le percevez?
Quand je mixe
ou quand vous mixez ou quand vous composez un album?
Quand je compose. Quand je compose un album, c'est vraiment... les tracks prennent vie un à un. Et puis après, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les morceaux aussi. Je trouve que vraiment, les albums où on sent que c'est des morceaux mis bout à bout, je trouve que ça s'entend assez vite. Et j'ai de la peine à les écouter en entier ou à rentrer dedans. Moi, j'aime bien vraiment créer cette écoute avec cette espèce de chemin entre les morceaux. Je trouve ça très important. Et dans les sets DJ, c'est vraiment pareil. Hein, les sets DJ, en fonction des lieux où on joue, en fonction des publics, en fonction des heures, en fonction de plein de choses, c'est vraiment des histoires très 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 différentes, mais c'est sûr que j'y accorde beaucoup d'importance à l'ordre des morceaux, à ce qu'ils racontent entre eux. On change vraiment toute la sensation d'un morceau en fonction des trois qu'il y a autour, en fait. Donc c'est très important. Ouais.
On dit souvent de votre musique qu'elle est atmosphérique. Et je trouve que c'est vrai, mais je saurais pas vraiment dire pourquoi. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cet adjectif-là?
Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la rêverie ou quelque chose atmosphérique. Oui, c'est plus par rapport à. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de l'onirisme. Voilà.
C'est ce que je dis. Du rêve.
Ouais.
M'a proposé le solfège quand j'étais petit, mais c'était très dur et j'ai pas compris ce qu'il y avait à faire là-bas. Je me souviens du conservatoire, mais j'ai rien appris en fait parce que c'était comme l'école,
ça n'imprimait pas,
ça glissait pas, je comprenais pas le challenge ni le contrat. Donc je suis revenu à la musique tout seul plus tard par la technologie, par une console de jeux vidéo, un jeu vidéo qui était à la fois un jeu. Mais en fait, on pouvait enregistrer des morceaux et c'était un logiciel pour faire de la musique techno, trance, drum and bass. Et moi, je faisais pas cette musique, donc j'utilisais ce logiciel pour faire un autre style de musique qui était mon style de musique. Je crois qu'il était une espèce de blues fantasmé. Je le voulais très organique, mais je n'avais que des samples très froids. Et à force d'essayer de trouver mon langage d'année en année, de sauvegarde en sauvegarde, de carte mémoire en carte mémoire, entre-temps, j'étais passé par poser un poste de cassette devant la sortie haut-parleur de la télé pour enregistrer les morceaux. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant une petite dizaine d'années, sans vraiment le faire écouter autour de moi, je produisais de la musique. J'essayais de trouver mon langage, c'est ça. C'était très très amateur jusqu'à très longtemps. Et en fait, le moment où j'ai pu enregistrer ma voix a été très tardif. Et ça a été un tournant, parce que à partir du moment où on peut enregistrer sa voix, on peut enregistrer toutes les idées qu'on a dans la tête. Et c'est l'idée qu'en fait la machine elle est pas là pour en soi, c'est pas Hal, c'est pas une machine qui va décider de ce qu'on fait d'elle, c'est le monde extérieur qui rentre dans la machine et au travers d'elle on fait des traductions, on fait des réinventions, on essaie de trouver des langages, on synthétise, la machine c'est un outil, et un outil c'est magnifique.
Jeffrey, on entend la voix de Flavien Berger qui était passé dans Parler Tant Qu'il Court en septembre pour son dernier album. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce qu'il dit de la machine? C'est un outil.
Ouais, c'est un outil. C'est comme ça permet une grande liberté en fait, parce qu'on peut tout faire. On peut, En fait, quand on dit la machine, c'est l'ordinateur, tous les petits joujoux qu'il y a dedans, tous les synthétiseurs, c'est un petit vaisseau spatial.
C'est multiple, oui.
Ouais, voilà. Donc, et la voix, bien sûr, devient aussi un de ces outils-là, parce qu'on n'est pas obligé de l'utiliser de façon très directe, avec des paroles très claires. On peut aussi l'utiliser de la même façon, c'est-à-dire vraiment de façon plus sous-jacente, avec... avec des effets, avec on peut changer aussi les mettre plus graves, plus aigus. Enfin, c'est vraiment une aire de jeu aussi assez étonnante là-dessus. Je suis d'accord avec lui quand on commence à utiliser ça. Pas forcément que pour faire des chansons avec voix en avant, c'est vraiment super, ouais. Et les machines, bien sûr, c'est une grande aire de jeu, ouais.
Vous avez un rapport, de jeu avec les machines?
Ouais, bah parfois c'est aussi c'est conflictuel hein, quand ça fait pas exactement ce qu'on voudrait. Il y a aussi tout un quelque chose qu'il faut adopter quoi, ce système-là. Il faut trouver ses repères là-dedans. Donc ça prend aussi du temps de comprendre ce qu'on préfère, de peut-être pas, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de possibilités. C'est vrai que c'est assez facile d'avoir plein de synthés virtuels, des tonnes de choses. Ils sortent des choses intéressantes tous les jours, des mini pianos qui font je sais pas quoi. Et puis il y a plein de façons de composer. Donc c'est comment. Et puis maintenant, oui, il y a même des choses qui. Franchement, il y a des synthétiseurs où carrément on dirait que les choses sont déjà pré-mâchées. Enfin, faut trouver sa façon de composer. Donc moi, j'ai l'impression d'être assez artisanale dans ma façon de faire. J'ai du mal à aller vers certaines façons de composer peut-être qui sont un peu du tout fait maintenant, ça existe aussi, les choses changent à une vitesse folle quoi, mais c'est trouver sa voie là-dedans et dans les machines effectivement il y a une liberté assez extraordinaire, on n'est pas face à un instrument qui fait un son, voilà, comme un accordéon, une harpe, on peut avec son synthé, ses deux mains, sa voix, on peut tout faire, c'est génial.
Mais donc, il faut faire des choix tout le temps.
Il faut faire des choix tout le temps. Et ça, c'est compliqué. Effectivement. C'est-à-dire, même pour faire une rythmique, aujourd'hui, il y a 150 façons de le faire. Alors, est-ce qu'on prend une boîte à rythme? Est-ce qu'on les fait avec des tas de plugins qui sont assez géniaux aussi? Est-ce que c'est vraiment plus des choix de est-ce qu'on est plus dans le toucher, donc, ou finalement dans les possibilités intérieures de l'ordinateur qui en offre un panel incroyable, mais c'est trouver là-dedans comment on va pouvoir s'exprimer au mieux sans être tout le temps non plus le nez collé dans l'ordinateur, parce que c'est pas forcément le plus créatif aussi, donc de rester aussi sur ces petits instruments et puis de trouver sa recette de vaisseau spatial, quoi, comment la gérer au mieux.
Et quand est-ce que vous savez, vous, que là ça fonctionne?
Bah moi je reste vachement avec mes systèmes je sais que ça fonctionne quand ça simplifie mon imagination, que j'arrive à incarner en pas trop longtemps ou là où j'ai envie d'aller quoi, c'est là où on sait qu'on est dans les bonnes utilisations des différents instruments qu'on a devant soi, c'est-à-dire c'est vraiment des tas d'instruments et j'ai ça en tête et quand on sent quand c'est assez fluide, c'est que c'est ok. Voilà.
Ce serait une manière de faire advenir le monde ou advenir un monde.
Ouais, c'est ça.
On a dit que vous créez des paysages, enfin vous créez un voyage à travers cet album Still Life, mais j'ai aussi vu ça comme oui, créer des paysages.
Ouais. Bah, Still Life là-dedans est particulier parce que c'est pas comme de créer un album avec des morceaux ou quoi. C'est vraiment cette idée de grande plage. Donc forcément à l'intérieur on va glisser dans c'est plus comme un film. Enfin il y a quelque chose qui est plus de cet ordre-là qu'un album avec des morceaux qui sont vraiment composés les uns en dehors des autres. Enfin, c'est pas du tout le même travail. Donc, oui, il y a une forme de paysage dans la durée des choses, parce qu'il y a quelque chose qui s'installe et on navigue forcément un petit peu dans tous ces états-là, visuels et sonores, ouais.
Il y a un film qui accompagne la sortie de cet album. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Ouais, en fait, c'est Kevin Elamrani-Lins, qui est un vidéaste que j'aime beaucoup, qui a donc créé sur les 40 minutes de son, qui a créé un film, une longue vidéo, qui reprend en fait des tas d'images, de voyages qu'il a collectés, donc il nous a aussi accompagnés en tournée avec Lavinia Meyer. Il voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui va glaner un petit peu partout, donc il y a des images du Japon, du Maroc, de la France, etc. Et il raconte lui aussi, c'est un voyage assez magnifique sur la musique, c'est une sorte de clin d'œil aussi à une autre œuvre de glace qui s'appelle Koya Nikatsky, qui était un documentaire sur lequel il a fait la musique, qui était un documentaire dans les années 80, sur un peu l'état du monde, des humains et tout ça, et donc c'est un petit peu une réponse à ça, aujourd'hui, en utilisant un petit peu les mêmes méthodes, les mêmes grandes collections d'images sur un constat d'aujourd'hui comme une espèce de portrait de génération, de gens. On y voit toutes sortes de choses, donc c'est vraiment... c'est sur le temps, c'est sur il y a des liesses populaires de foot aussi bien que des rave parties, que des paysages abîmés par l'homme, que des magnifiques paysages. Enfin, c'est vraiment ça se marie assez magnifiquement avec la musique. Là-dessus, il a vraiment senti la musique. J'ai trouvé que c'était impressionnant parce que ça crée quelque chose d'assez fort dans la rencontre image et son. Et d'ailleurs, on le projettera pour le Fame Festival, qui sera à la Gaîté Lyrique, entre le 13 et le 16 février, en avant-première, ce film-là, parce qu'il n'est pas encore sorti. Donc c'est bientôt.
C'est un projet à venir. Et c'est aussi une autre manière, pour l'image concrète, de dialoguer avec la musique.
Ouais. Disons que là, c'est son point de vue. C'est-à-dire, j'étais assez d'accord hein, avec ce point de vue. Ça permet d'aborder la musique qui peut tout à fait, qui a son propre paysage visuel. Hein, je pense aussi de toute façon, mais c'est comme un clip géant parce que je trouvais qu'un clip, on a d'abord sorti un extrait. Donc de la partie 5 de ce travail de Still Life, donc de la partie du milieu, et on a sorti un extrait donc qui dure 5 ou 6 minutes avec le clip, mais ça n'est qu'un extrait, c'est-à-dire que c'est comme écouter le track seul. Je trouve que ça a beaucoup moins de sens que de l'intégrer à cette grande écoute d'une pièce de 40 minutes. C'est pareil pour le clip, en fait. Le clip est magnifique, mais c'est vrai que quand on regarde les 40 minutes tout est écrit comme ça, quoi. L'image comme le son.
Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs auxquels vous auriez envie de vous attaquer, après Philip Glass, dans ce type de continuation?
Je suis pas sûre. C'est-à-dire que lui, vraiment, ils sont tombés sur... il savait que j'aimais beaucoup ce compositeur, donc c'est vrai que je trouvais que c'était une merveilleuse proposition et j'étais vraiment très contente de le faire. Et maintenant, je suis pas sûr qu'un autre compositeur me donnerait envie de m'atteler à ce travail-là, qui est quand même un gros, gros travail que j'ai adoré faire et qui tombait à pic, parce que c'est vrai que je vois pas quelqu'un qui m'embarquerait dans cette aventure à nouveau.
Vous préférez composer, du coup?
Ouais.
Vous avez un autre projet d'album?
Ouais. Ouais. J'y démarre, là, tranquillement.
Et ça se passe bien?
Ouais, ça se passe bien. Ouais.
Merci.
Merci.
Maud Jeffrey.
Get some wind for the sailboat, and it could get for it is, and it could get. Oh, these are the days, my friends. And these are the days, my friends. It could be those ways. Will it get some wind for the sailboat? It could get for it is it. It could get for it is it. It could get for it is it. It could get the railroad for these workers. And it could get for it is. So these are the days, my friends. And these are the days, my friends. And these days of 888 cents and 106 coins of change. These are the days, my friends. And these are the days, my friends. Make a Toyota on these. These. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Will it get some wind for the sailboat? And it could get those for it is. It could get the railroad for those workers.
Dernier album est sorti sur le label Pan-European Recording. Le film de Kevin Elamrani-Lins sera diffusé dans le cadre du Fame Festival du 13 au 16 février à la Gaîté Lyrique à Paris.
Voilà.
Les temps qui courent, on se retrouve demain soir à 21h. Ce soir au son, c'était Valérie Lavalard, Nathalie Salle à la réalisation. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Marianne Chasseur et Lucie Riandet. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Et tout de suite, c'est le journal.